m'appelle Robert. J'appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
moi,
d'accord.
Moi, c'est André de Moudima, au Katanga oriental. Je réfute totalement ces questions.
Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de vous joindre à nous pour cet échange dans Parole aux auditeurs, votre magazine 100% interactif. À l'approche des échéances électorales, certains Congolais ont déjà exprimé leurs ambitions comme candidats aux prochaines élections présidentielles, législatives, nationales et provinciales. Certains parmi eux ont aussi proposé un plan maréchal de développement de la RDC. Après les docteurs Tchani, l'ancien Premier ministre Adolphe Mouzito, l'ancien ministre de Finances Freddy Matungulu, c'est le tour de M. Jean-Paul Moka du Mouvement Bleu de proposer un projet qui prévoit un budget des 1000 milliards de dollars étalés sur 25 ans. Certains observateurs pensent qu'il ne serait pas facile de mobiliser ces fonds même sur 25 ans, tandis qu'une autre opinion estime que cela est possible à condition de lutter contre la corruption. Qu'en pensez-vous? Rejoignez-nous au 081-890-4969-09-97-06-4969 pour vos interventions en direct. Le débat s'étient également sur la page Facebook des Paroles aux auditeurs. Jean-Claude Tiala est à la mise en onde de ce magazine réalisé par Nico Kalamba et Jirlungembo est à la coordination. Et Pierrot et la Mégie, j'ai le réel plaisir de vous le présenter sous la supervision de Martin Seboujangwe. Fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs, pour participer, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiookapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Merci Jean-Claude, merci à tous. Vous êtes nombreux à commenter ce sujet sur la page Facebook des Paroles aux auditeurs, mais vous pouvez également nous appeler, comme je le disais tout à l'heure, au 081-890-4969 pour intervenir en direct. Valérie, vous êtes avec nous ici à Kinshasa, Franck est à Vienne. On va revenir à vous, le temps de recevoir notre invité, Monsieur Jean-Paul Moka. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça fait plaisir de vous recevoir. Postuler à la présidentielle, est-ce une nécessité ou une obligation?
C'est d'abord une inspiration, c'est un appel, c'est une vocation. C'est en le 17 août 2003 que, offusqué et frustré par la pauvreté environnante, que j'ai eu une sorte de conversation très privée avec celui en qui je crois, c'est-à-dire l'Éternel, le Dieu des armées, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et ça m'a emmené au psaume 23. Et donc, il y a toute une explication par rapport à cela qui aboutit au fait que la République démocratique du Congo est en fait l'original du Jardin d'Éden. Et à partir de là, ben, il y a eu tous les développements de ce plan Moka, qui est une sorte donc de plan Marshall pour la RDC depuis 17 ans. Hein, donc, c'est depuis en fait 2001 que je travaille sur...
1000 milliards de dollars.
Non, c'est beaucoup plus que ça en réalité. En fait, il s'agit de 100 milliards par année. Mm-hmm. Sur 25 ans, en fait, le calcul, ça fait en fait 2500 milliards de dollars.
Mm-hmm. Alors, où est-ce que nous avons péché? Quand on regarde aujourd'hui la modicité de notre budget, où se trouve notre péché?
La réponse est tellement simple, c'est la corruption. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'argent qui entre dans l'État, la caisse de l'État, mais on le vole. C'est simplement ça. Il n'y a pas d'autre réponse. Donc, il faut d'abord commencer par lutter contre cette corruption. Ben, par exemple, eh bien, au niveau du pétrole, il y a 50 milliards de dollars qui disparaissent par année. Mmh. Et dans le Parlement, il y a deux ans, on disait qu'il y a 425 millions. Si vous prenez les carrés milliers, il y a 30 milliards de dollars qui disparaissent chaque année. Si vous prenez au niveau des régies financières, etc., sans parler évidemment des 14 milliards dont parle le Zolombambi, vous comprenez que tout de suite, 100 milliards ne représentent pas grand-chose. Rappelez-vous que le Rwanda, il y a à peine un mois, a mis 3 milliards 200 millions rien que pour le secteur de l'agriculture. Et en Angola, une province a un budget de 10 milliards de dollars. Donc vous comprenez que 100 milliards de dollars pour un pays avec 89 millions d'habitants, deuxième pays le plus grand en Afrique, aussi riche que celui-ci, ce n'est pas un rêve du tout.
Mais quand on regarde l'histoire, partant de la colonisation, en passant par les 32 ans de règne des Mobutu, et jusqu'en ces moments, je ne veux pas dire que le Congo est géré sur base de la prédation, mais en principe, ça fonctionne comme ça. Alors, quels sont les éléments clés aujourd'hui sur lesquels vous pouvez tabler pour arriver à transformer cette conception de la prédation en exploitation réelle de ses potentialités pour les transformer?
Vous avez compris que jusque-là, je n'ai pas encore parlé des potentialités. Je n'ai pas parlé de l'exploitation de notre biodiversité. Je n'ai pas parlé de l'exploitation de notre énergie solaire. Je n'ai pas parlé de l'exploitation de notre agriculture avant toute chose. Je n'ai encore parlé de rien de tout cela. Jusqu'à présent, je ne parle que des ressources existantes. J'ai parlé du pétrole, j'ai parlé des carrières minières,
oui.
Voilà, et j'ai parlé du rapport concernant le blanchiment d'argent, et j'ai également parlé de la corruption au sein des régies financières. Donc vous comprenez, je n'ai pas encore touché toutes les potentialités de la RDC.
Alors quand vous avez parlé de la corruption, tout de suite, je me dis, quand on voit la succession de régimes, que ce soit les intentions, quand on veut se présenter à la présidentielle, ça a été comme ça, tous ceux qui ont accédé au pouvoir depuis après le départ de Belges ont tous tablé sur cette question de la lutte contre la corruption, estimant que si on lutte contre la corruption, on va résoudre le problème. Mais quand on regarde dans le fait aujourd'hui, on n'a pas vraiment fait beaucoup d'efforts. Alors, quelle va être la particularité que vous proposez pour arriver vraiment à lutter contre cette corruption?
Eh bien, moi, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Rappelez-vous, après l'indépendance, nous avons Kassavubu. Et tout le monde le sait que Kassavubu et son gouvernement étaient des gens d'une honnêteté impeccable. À l'époque, mon père travaille comme directeur de cabinet du ministère de Mines, où était le ministre Kishwe, Adolphe. Ma mère me raconte qu'il venait à la maison avec des caisses de diamants. Mais on ne touchait pas une seule pièce de diamant, on le ramenait au bureau. Vous comprenez que nous avons eu dans ce pays des époques où la corruption n'existait pas parce que la morale précédait la science. Aujourd'hui, il y a la science, mais il n'y a plus la morale. Ensuite vient Mobutu. Mais rappelez-vous, Mobutu jusqu'en 72, il n'y a aucun problème. Le problème de Mobutu commence en 73 lors de la zarianisation. Donc, si nous avons eu dans notre pays, entre 60 et 72, une période où les choses fonctionnent, rappelez-vous également l'époque de M. Laurent-Désiré Kabila. Je sais qu'il y a certains qui ne l'aiment pas, je sais que d'autres l'aiment, mais c'était une période où nous ne bénéficions d'aucun dollar de l'extérieur, mais les gens étaient payés. Donc, c'est possible.
Alors faudrait-il aujourd'hui renverser la démarche dans la lutte contre la corruption, partir de la base pour remonter ou partir du sommet pour aller à la base?
Ah là, il n'y a rien à dire. Il faut commencer par le papa. C'est le papa et la maman qui donnent l'exemple aux enfants. Si vous dites à l'enfant, écoute mon gars, il ne faut pas fumer. Mais s'il vous voit fumer tous les jours, je vous garantis que tôt ou tard, il va finir par fumer lui-même. Donc, il faut commencer par le sommet. Alors, comment est-ce qu'il faut faire? Je vais prendre un exemple tout à fait banal. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a environ 2 heures de retard par réunion qu'un Congolais prend lorsqu'il a rendez-vous avec quelqu'un. En moyenne, il a 4 réunions ou 4 rencontres par jour. Faites le calcul. Le Congolais perd 8 heures par jour par personne. Si nous sommes, disons, méchants et que nous disons que dans les 89 millions de Congolais, il n'y en a que 3 millions qui travaillent. Faites le calcul par année, nous perdons 20 000 ans par année. Ce qui veut dire qu'à chaque fois que la France, les États-Unis, la Belgique, le Japon créent une nouvelle machine ou un nouveau véhicule, c'est-à-dire en 3 à 6 mois, bien, en une année, ils en ont créé 3-4. Ben nous, en une année, nous avons fait 10 fois en arrière le temps qui nous sépare de Jésus-Christ.
Voilà, j'allais tout à l'heure vous dire que est-ce que le moment que vous vous présentez pour apporter ces discours qui va aussi dans la profondeur du développement personnel, de la personnalité du Congolais, de la moralisation, est-ce qu'on peut dire que à la veille des échéances, amener ces discours, vous n'êtes pas en retard?
Non, c'est un discours que je tiens depuis 17 ans. La seule différence, c'est que maintenant, je suis candidat à la présidentielle. La seule différence est que c'est pour la première fois de ma vie qu'il y a autant de millions de personnes qui vont pouvoir entendre mon message, ma proposition, ma vision pour la RDC.
Voilà, on va revenir à vous. Les auditeurs sont nombreux qui voudraient bien commenter ces sujets. Valérie, vous avez suivi l'introduction avec notre invité. On l'a dit, la question au centre de tout, c'est la corruption. Si on arrive à résoudre la question de la corruption, mobiliser le fonds pour la RDC, 1000 milliards, 2500 milliards, ça ne peut pas poser de problème, Valérie. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour Pierrot, bonjour à notre invité.
On vous écoute.
Je souscris à cette thèse que la corruption doit être éradiquée parce que nous en avons toujours parlé. C'est la raison pour laquelle, personnellement, j'ai regardé beaucoup de projets de société, beaucoup de candidats. Il y en a même que vous n'avez pas mentionné dans votre, sur votre page Facebook. Alors, au regard de la situation que nous vivons, j'ai beaucoup de préférences pour les projets de société de l'équité. Il vous souviendra, la presse en a bien fait écho, qu'en 2015, les CIDA a tenu son congrès pour dire que la résolution de toute la misère et ainsi que du développement du peuple congolais pouvait se résoudre sous trois piliers. D'abord, créer un état de droit, parce que dans un état de droit, même le président de la République, lui-même, le candidat potable Martin Fayoulou, sera aussi soumis à la loi. Donc, d'abord, un état de droit. Lorsque les gens se contrôlent, c'est comme ce que venait de dire l'invité, lorsque même un directeur du cabinet a peur, un ministre a peur de la loi, disons, a du respect, même pas peur, mais du respect pour la loi. Parce que des fois, on peut respecter la loi par peur, mais pas par acquis de conscience. Donc, l'étudiant a dit, on doit commencer par un état de droit. Après, il y a la création des richesses, parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui ne sont pas encore créées. On vous a parlé dernièrement du gouvernement qui a parlé trop de la croissance, mais on a créé des richesses. Donc, la création des richesses et son partage. On a trop parlé de la croissance, mais on n'a pas vu le développement. Et le CIDE dit, il faut créer des richesses. Donc, augmenter le PIB par conséquent la croissance et aussi redistribuer pour jouer maintenant, non pas sur les refrains de la croissance, mais plutôt de l'industrie de développement humain. Et troisièmement, c'est le développement durable et humain. Donc, vous comprenez que c'est tout à fait normal. Les ambitions sont légitimes. Et moi, je trouvais que ce plan d'action-là, il est très performant. Il est très performant et d'ailleurs, l'honorable honoraire Martin Fayoulou a commencé même des tournées. Il a été, n'est-ce pas, au Nord Kivu, à Goma, il a été au Kasaï Central, à Kananga, dans le Bandundu, à Kwilu, puis au Bas-Congo. Et moi, je me dis, c'est dans un tel plan que moi, je me retrouve. Parce qu'en parlant du développement durable, après la création des richesses, cela signifie quoi? On crée les richesses, on les partage et on réserve aussi quelque chose pour l'avenir. On ne doit pas gérer comme si après soi-même, le tout s'arrête comme Mobutu nous disait que après moi c'est le déluge. Alors, mais ici, les idées prévoient que même après nous, il y a une vie et on doit prévoir aussi une vie aux générations futures. Mmh. Moi je trouvais que c'est un plan qui me convainc le plus. Et je même regrette que vous ne l'ayez pas mentionné sur votre page.
Il y a tellement beaucoup de gens, oui. Voilà, il y a tellement, oui. Voilà, il y a tellement beaucoup de gens, Valérie.
Oui. Martin Fayoulou, pour moi, c'est une candidature potable.
Voilà, Valérie, on ne sera pas en train aujourd'hui de juger qui est le candidat idéal parce que c'est pas le moment de la campagne électorale, mais on reste dans les propositions, dans les faits. Vous avez estimé qu'il fallait mettre ça. Il y a tellement beaucoup de gens qui ont présenté ces ambitions pour la présidentielle, mais on doit aller dans les faits. Mais je vais prendre le premier élément. Vous avez dit l'état des droits. Merci beaucoup, Valérie. Je reviens à notre invité, Jean-Paul Moka. Quand on dit qu'il faut construire l'état des droits, ça doit être basé sur quoi? Parce que c'est dans le discours, on le dit, le Congo doit être un état des droits pour arriver à mobiliser, à lutter contre la corruption. Ça doit être basé sur quoi, cet état des droits?
Eh bien, je vais prendre votre exemple à vous. Vous travaillez dans Radio Capi, vous avez un salaire mensuel. Eh bien, dans ma conception de l'état de droit, c'est-à-dire dans le plan Moka, nous disons ceci. Par rapport aux fameux 100 milliards de budget national, chaque mois, nous vous donnons 500 $ au-dessus de votre salaire, que nous appelons allocation de soutien. Alors, dans les fameux 500 $, nous prenons en charge le paiement de l'eau. Mmh. Nous prenons en charge le paiement du courant. Nous créons des mutuelles de santé, c'est-à-dire nous vous donnons une carte lorsque vous êtes malade, lorsque l'enfant est malade ou lorsque madame est malade. Vous allez à l'hôpital, on vous soigne grâce à cette carte, mais vous ne payez rien. nous créons également des frais académiques, c'est-à-dire, à l'époque, rappelez-vous, nous avions des bourses dans ce pays. Aujourd'hui, il y a encore plein de pays africains qui ont des bourses. Eh bien, nous remettons en place le système des bourses et par rapport à cela, en tant que professeur d'université, vous vous doutez bien que je suis très au courant de la réalité des problèmes que les étudiants peuvent avoir par rapport à ça. Nous retirons toujours dans les $500. Mais ce n'est pas fini. Nous faisons également que vous deveniez propriétaire de votre propre maison. Je m'explique. Nous allons donner une garantie souveraine à la banque. Vous avez droit à recevoir un prêt hypothécaire de votre banque et cela vous permet de pouvoir construire votre maison. En moyenne, nous retirons $150 de votre argent, c'est-à-dire les fameux 500, pendant 15 ans ou 20 ans. Mais avec cela, nous pouvons vous construire une maison de 4 chambres, un beau jardin. Vous en faites évidemment ce que vous voulez, si vous voulez le mettre en location ou si vous voulez habiter à l'intérieur. Eh bien, après tout ce calcul, il reste encore $250 que nous vous remettons évidemment sur votre compte. Donc, vous comprenez que l'état de droit, en ce qui me concerne, c'est d'abord le bien-être social de la population. Si vous faites le calcul, cela vous fera plus ou moins 18 milliards par année. Maintenant, qu'en est-il des chômeurs? Parce que l'état de droit ne concerne pas seulement ceux qui travaillent. Eh bien, prenons un exemple. Vous avez un enfant, vous avez un cousin, vous avez un frère qui est étudiant. Ça fait un an qu'il a terminé ses études, mais il n'a rien. Eh bien, qu'est-ce que nous faisons? Nous avons d'abord une politique fiscale qui est très ouverte. Je m'explique. Vous savez qu'à Dubaï, il n'y a pas une seule goutte de pétrole. Il y a beaucoup de gens qui pensent que la richesse de Dubaï provient de son pétrole. Mais non, il y a du pétrole à Abu Dhabi, il y a du pétrole en Arabie Saoudite, il y a du pétrole au Qatar, il y a du pétrole à Bahreïn, c'est-à-dire les pays environnants, mais il n'y a pas une seule goutte d'eau à Dubaï. Mais comment se fait-il que Dubaï ressemble à New York, alors que c'est un pays où il n'y a que du sable? En fait, c'est leur politique fiscale. Donc nous devons avoir une politique fiscale très ouverte, ainsi nous allons attirer un maximum d'entreprises pour venir travailler dans ce pays. Eh bien nous disons à l'entreprise, si vous prenez ce jeune homme qui est sans emploi, eh bien nous réduisons vos charges fiscales. L'entreprise va faire son calcul entre ce qu'il devrait payer à ce stagiaire ou bien ce qu'il devrait payer à l'État. Et il va se rendre compte que c'est dans son intérêt de plutôt payer le stagiaire. Ainsi, le stagiaire se retrouve en entreprise et il a droit, évidemment, à apprendre le boulot, il a droit à manger, il a droit de boire, mais quand il rentre à la maison, il a son per diem. Ensuite, nous disons à l'entreprise, après une année ou deux ans, êtes-vous satisfait du travail de cet étudiant? Oui. Eh bien, si vous l'embauchez, c'est-à-dire il devient salarié chez vous, nous réduisons davantage votre charge fiscale. Du coup, l'étudiant travailleur salarié devient maintenant qualifié pour le plan MOCA. Voilà. Pour moi, l'état de droit, c'est ça.
Voilà. On va revenir à vous. Faudrait-il aujourd'hui aller vers la population, les électeurs, pour que ces explications soient comprises au niveau de la base, de ceux qui donnent bien sûr le pouvoir en termes d'électeurs. Franck, vous êtes à Vienne. Merci de nous avoir rejoint. Bonjour.
Bonjour mon ami Pierrot, bonjour à l'invité, bonjour aux amis qui vont encore s'exprimer après moi.
On vous écoute.
Oui, merci beaucoup pour le choix de la thématique et pour la conscience que vous nous faites. Nous savons tous que selon notre constitution, tout candidat congolais qui remplit tous les critères d'éligibilité à toutes ses échéances électorales est en droit de se positionner selon sa volonté, selon ses capacités et selon son profil. Et je crois que par ailleurs, en parlant d'une telle thématique, nous devons aussi arriver à responsabiliser nos candidats qui veulent surtout se positionner au niveau des échéances présidentielles. Vu la dimension du pays, vu les attentes du peuple, vu les défis auxquels nous sommes en train de faire face, il nous faut du réalisme. Et de plus en plus, nous sommes en train de voir, nous sommes en train de lire les profils de certains candidats qui passent par-ci, par-là, pour exposer leur programme d'action, leur plan de sortie de la crise. C'est très bien. Mais je crois que, comme j'ai déjà parlé du réalisme, ces gens-là doivent aussi savoir que battre campagne dans un pays vaste comme la RDC ne doit pas seulement se limiter aux réseaux sociaux ou ne doit pas seulement se limiter à un petit cercle restreint d'amis. parce qu'il y en a qui peuvent trouver des difficultés. Ça, c'est d'abord un. Puis, de deux, par rapport à l'état même moral des citoyens, nous avons encore du travail à faire. Nous avons encore du travail à faire parce que moi, ça me fait mal de voir comment les gens parlent du civisme, du patriotisme dans un pays où la corruption a atteint des proportions indescriptibles. Et c'est tout à fait difficile, mais on aimerait peut-être que cette fois-ci, que nos compatriotes congolais arrivent à faire des choix utiles, à faire des votes utiles pour le bien de tous, que de procéder par des votes complaisants. Ça, c'est une de mes premières prières. Puis une autre prière, c'est de ne pas voir ces candidats à la présidentielle aller en ordre dispersé. Parce qu'on est en train de voir telle à son ambition, telle à son ambition. Il y a les candidats qui ont les profils de Fonds monétaire international, les technocrates. Il y a des candidats qui ont milité sur place. Il y a des candidats, donc, déjà, si nous devons voir au niveau de l'opposition, on risque d'avoir 15 à 20 candidats. Et 15 à 20 candidats, ça signifie que les voix seront émiettées. Et dès qu'ils vont partir en ordre dispersé, c'est déjà la porte ouverte qu'ils laissent aux autres. Alors, ils pourront se plaindre, ils pourront décrier, ils pourront dénoncer, mais tant qu'ils ne vont pas unis, tant qu'ils vont en ordre dispersé, ça ne va donner aucun résultat.
Alors, Franck, ça c'est dans le fait parce
qu'il faut vraiment du réalisme. Et
oui.
Je ne souhaite pas que les gens passent seulement nous tenir des discours. Le peuple a d'abord besoin d'avoir des candidats qui connaissent les problèmes du pays, des candidats qui vont maîtriser la situation du pays, que de nous fier seulement à des spéculations. Parce que depuis 2006 jusqu'à présent, on a encaissé des discours, des théories, mais jusque-là, ça ne donne rien. Alors, il faut d'abord que ceux qui se disent technocrates du côté de l'opposition se mettent d'accord pour présenter un candidat avec un profil qui pourrait convaincre tout le monde.
Oui, ça c'est dans le fait, on pourra voir quand on se rapprochera au moment opportun, on aura les débats parce qu'on en a eu en 2006 et 2011 pour savoir si les candidats, les gens étaient-ils capables de se mettre ensemble pour présenter une seule personne. Le débat viendra à son tour, mais si pour revenir au contenu de cette proposition de Jean-Paul Moka sur la capacité de pouvoir mobiliser autant d'argent et amener le pays au développement, on peut d'abord voir quelles sont les possibilités aujourd'hui et ce qui peut être possible à faire pour y arriver. Merci beaucoup, Franck Abamungu. Vous êtes à Bukavu. Bonjour.
Oui, bonjour, Radio Okapi.
On vous écoute.
Oui, par rapport au plan de M. Jean-Paul Moka, c'est quelqu'un d'abord encouragé pour son plan, mais il reste maintenant la question de savoir est-ce qu'on aura un homme capable de matérialiser son projet. Les 1000 milliards de dollars qu'il vient de proposer ici, c'est peu d'argent par rapport aux ressources qui regorgent la RDC. Si nous répartissons les 1000 milliards de dollars en 25 ans, c'est à peu près 40 milliards de dollars par an. Et si nous nous limitons seulement aux 1000 milliards de dollars, comment les mobiliser? Il nous suffit de mettre de l'ordre dans le secteur minier, de s'intéresser à notre secteur agricole qui n'est pas négligeable, de réduire les gros salaires qui consomment une partie importante du budget de l'État. Imaginez qu'une seule personne gagne 13 000 dollars par mois, il aura combien pendant une année? Il nous suffit d'inscrire tout le monde au paiement des impôts et taxes de l'État. Ici au Congo, il y a des marchandises qui ne payent pas des impôts, il y a des véhicules qui ne payent pas des taxes, prétextant qu'ils sont des véhicules des généraux, des politiciens, etc., etc. Il nous suffit aussi de punir sévèrement la corruption. Les 1000 milliards de dollars qu'on se propose de réaliser ici, on peut trouver même 40% de cet argent dans les poches des individus ici. Et il suffit aussi un homme capable de maintenir l'autorité de l'État sur toute l'étendue de la République en vue d'attirer les investisseurs. Et au-dessus de cela, nous avons besoin des hommes consciencieux qui aiment la République.
Merci beaucoup, Abamungu. Vous estimez que c'est pas compliqué de mobiliser cet argent, les secteurs miniers, le secteur agricole, mais la question au centre de tout, hein, c'est la capacité d'avoir ces hommes capables, un homme capable de pouvoir concrétiser une telle vision. Mais il faut lutter contre la corruption. On pourra venir dans le fait avec notre invité pour qu'il nous dise concrètement lutter contre la corruption. Quels sont pour lui les piliers qui doivent permettre à lutter contre cette corruption qui est à la base de tout. Merci beaucoup, Abamungu. Elie Lokwa, vous êtes en Bandaka. Bonjour.
Bonjour, Radio Kapi. Je salue l'invité et tous les auditeurs qui nous suivent à tous les moments.
On vous écoute, Elie.
À l'entrée des jeux, je m'inscris totalement dans cette logique éditée de Jean-Paul Moka pour avoir donné son plan. La RDC comme un État potentiellement riche aujourd'hui, il s'avère très indispensable de mobiliser toutes les ressources afin que nous atteignions un nombre de budgets gigantesques tels qu'il a proposé en RDC. Donc, cette chose n'est pas, à mon avis, une illusion ou une sorte de l'utopisme, mais plutôt c'est une question de l'organisation dans un état de droit. Ce qui concerne sa proposition, de mon point de vue, je ne voudrais qu'il puisse faire la promotion du secteur minier. Je pense qu'il avait tout déjà dit. Parce que dans le secteur minier, vous allez vous rendre compte que dans la plupart des provinces dans notre pays, il y a des gisements, il y a des matières minières aujourd'hui. Lorsque on pouvait les exploiter, on pouvait les vendre dans un prix purement important qui pouvait faire en quelque sorte un budget colossal dans notre pays. Aussi faire la promotion de l'agriculture, qui est aujourd'hui un secteur générateur d'emplois. Parce que lorsque on fait la promotion de l'agriculture, vous allez vous rendre compte que la plupart des Congolais vont se retrouver avec des travails décents, avec des salaires qui ne seront même pas dérisoires comme il se passe aujourd'hui dans le pays. Mmh. Et en tout cas, il faut tenir compte de la canalisation des impôts dans les trésors publics, qui est aujourd'hui la caisse de l'État. Et c'est parce que la gestion irrationnelle dans le pays fait à ce que les budgets de l'État ne puissent pas aller de l'avant, juste à la mesure où on est en train de détourner les fonds publics, on est en train de créer le blanchiment d'argent, on est en train de faire la promotion de la corruption, les opérations retour, et il n'y a pas assez de sanctions. Je vais répondre à toutes ces personnes présumées au terme des détournements des fonds publics. Et j'aimerais à ce que la justice, en fait, soit faite de manière respectueuse dans un état de droit. Parce que lorsque vous laissez la justice en toute son indépendance, et ça sera assez normal, même si le chef de l'État ou n'importe quel ministre détournait de l'argent, on devait le traduire devant la justice. Et vous allez vous rendre compte que le conseiller du chef de l'État
il s'agit là de on peut dire de mécanismes, des éléments qui doivent accompagner, n'est-ce pas, cette vision, la justice. On va revenir maintenant, après avoir écouté Félicien, notre invité, pour qu'il nous dise concrètement comment il prévoit lutter contre la corruption. On a vu la possibilité que nous avons de mettre en place ces mécanismes, d'avoir de mobiliser cet argent. Maintenant, faudrait-il voir la situation du pays, là où nous sommes, et quels sont les éléments sur lesquels il faut tabler dans la lutte contre la corruption pour arriver à canaliser tout cet argent. Merci beaucoup. Félicien, vous êtes avec nous ici à Kinshasa. Bonjour.
Bonjour Pierrot, bonjour à tous les hôtels de Radio Café, bonjour aussi à l'invité.
On vous écoute.
Oui, mais écoutez, l'heure est grave. Nous sommes dans une situation où nous ne devions pas nous amuser à faire du n'importe quoi. Donc, le pays est sous occupation, le pays est entre les mains des multinationales et des occidentaux, certains occidentaux, qui n'ont jamais voulu que ce pays vraiment soit libéré. Aujourd'hui, nous devons nous battre pour nous libérer d'abord et non pas venir avec toutes ces histoires-là, des 100 milliards, des 200 milliards, on va récolter et tout ça. La corruption est... Nous n'allons pas laisser un clin d'œil. Nous n'allons pas construire ce pays ici en un clin d'œil. Nous sommes dans une étape d'abord, c'est de nous libérer. Libérer le pays des mains des...
Alors, Félicien, quand vous parlez de libérer le pays, ça veut dire quoi exactement?
Mais oui, Pierrot, mais quelqu'un qui fait la politique, quelqu'un qui veut devenir président de la République, il ne peut pas savoir que tout ce que nous souffrons aujourd'hui, c'est parce que depuis la conférence de Berlin, on a dit que le Congo ne peut pas, les richesses du Congo ne peuvent pas appartenir au Congolais eux-mêmes. Il n'y a pas longtemps, Sarkozy l'a dit encore ici, et beaucoup le disent encore.
C'est pour, en fait, Félicien, c'est pourquoi je demande, quand vous dites délibérer, ça veut dire quoi exactement? C'est que
oui,
les gens ne doivent pas faire la politique, ils doivent faire quoi exactement? C'est libérer, ça veut dire quoi? C'est juste ça ce qu'il faudrait clarifier, vous dire, voilà, il faut partir de ceci, faire cela pour se libérer, et après maintenant, chercher à accéder au pouvoir, c'est ça?
Oui, aujourd'hui, là, nous ne savons pas qui est qui. Nous devons d'abord arriver à nous libérer dans ce sens que avoir l'autodétermination, nous devons nous-mêmes gérer notre pays. Quand nous arriverons à ce niveau-là, que c'est nous qui gérons ce pays, comme les pères de l'indépendance, nous l'ont laissé, ils se sont battus. Quand ils sont partis à Berlin, ils n'avaient pas des étrangers avec eux, ils étaient des Congolais tous. Ils se sont battus et ils ont libéré le Congo et ils nous ont laissé le Congo. Mais aujourd'hui, nous sommes où? Donc, vous prenez les Américains qui viennent, qui cherchent la balkanisation et les multinationales qui ont pris les Kivu en otage et tout ça, qui sont en train de tuer. Plus de 6 millions de gens sont partis à cause des minéraux. Nous, aujourd'hui, nous pensons que nous sommes encore libres, nous sommes encore chez nous et nous pouvons commencer
alors
à parler.
Pour vous, Félicien, les gens ne peuvent pas postuler à présenter les ambitions pour aller à la présidence. Il faut d'abord mobiliser les Congolais. Ils doivent se battre, ils doivent se libérer, ils doivent chasser les étrangers, ceux qui les maintiennent en otage. C'est après maintenant qu'on peut commencer à parler économie et comment parler politique, c'est ça?
Mais quand ils vont aller en ordre dispersé, comme l'a dit Franck, mais c'est pour obtenir quoi? Mais ces gens-là devraient être considérés comme les ennemis du peuple congolais. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui sont des mèches, ceux qui sont les collabos des Occidentaux, sont en train de faire en sorte que la situation puisse durer toujours et que nous puissions continuer comme ça. Et ils ont préparé les élections dans ce sens-là.
Merci.
Ceux qui sont du côté de l'opposition devraient former un bloc pour présenter un seul candidat et gagner les élections. Et quand on a gagné les élections, c'est alors qu'on va...
Voilà, on arrivera. Merci beaucoup, Félicien. On pourrait arriver, vraiment. Mais faudrait-il qu'un candidat présente ses ambitions pour que les gens sachent qu'ils vont choisir? On va revenir sur cette question de la libération après. Merci beaucoup. 081-890-4969, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct.
Radio Okapi encourage les jeunes talents congolais. Auteur, compositeur, interprète, une adresse mail est à votre disposition. musique@radiokapi.net. Envoyez vos chansons. Après sélection, elles feront peut-être partie de la playlist ou d'une émission de Radio Okapi. Faites-vous connaître, des millions d'auditeurs vont écouter votre musique. musique@radiokapi.net. Allez-y, on vous attend.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
Jean-Paul Moka, vous savez que beaucoup de Congolais, les gens ont beaucoup d'impression, les gens ne croient pas tellement beaucoup à ce qu'on leur a déjà dit. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure, depuis 2006, on nous a tellement dit des choses. Alors, revenons maintenant sur terrain, concrètement. On voit la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui, notre état de la justice, la corruption. Et vous estimez qu'il faut combattre la corruption pour mobiliser tous ces fonds. On voit les potentialités, on voit les possibilités énormes que vous avez présentées. Entrons dans le fait maintenant. Dans votre plan, comment vous envisagez concrètement lutter contre la corruption?
D'abord, le mouvement bleu que je dirige donne beaucoup plus d'importance à la société civile. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Et quand vous regardez l'atmosphère politique dans notre pays actuellement, vous remarquerez qu'il y a un rejet de la classe politique.
Oui.
Ça, c'est un secret de Polichinelle. Le mouvement bleu n'appartient pas à l'opposition. Je tiens à le préciser. Le mouvement bleu n'appartient pas à la majorité. Je tiens à le préciser. Le mouvement bleu ne fait même pas partie de ce qu'on appelle aujourd'hui le soi-disant centre. Le mouvement bleu est un parti politique indépendant. Indépendant qui travaille avec la société civile. Ça, c'est déjà une grande différence par rapport à ce que nous avons connu jusque maintenant. Je ne crois pas à la culture politique qui existe dans notre pays actuellement, parce qu'il n'y a pas de moralité. Donc, pour combattre cette corruption endémique, commençons d'abord par la moralisation de l'État que nous voulons construire. Ça, c'est de un. De deux, nous ne sommes plus en 1970 ou 1990 pour savoir que combattre la corruption n'est pas un gros problème. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, il y a la technologie. Il y a les différents outils qui existent pour combattre la corruption, qu'on appelle les software. Même un petit enfant de 17 ans, vous mettez à sa disposition un ordinateur. Vous lui donnez la formation nécessaire par rapport à l'outil qui consiste à contrôler la comptabilité et les flux entrants et sortants. Mais il va pouvoir vous dire, là, il y a un signal rouge, on vole de l'argent, parce qu'il n'y a aucune cohérence dans les chiffres. Ça part de tel département, ça part de tel poste. Donc, je ne sais pas pourquoi aujourd'hui on a tendance à croire que combattre la corruption, c'est quelque chose de tellement extraordinaire, quelque chose, je ne sais pas, à la limite, il faut voir un ange. Non, c'est une question d'outils. Nous avons les outils technologiques aujourd'hui. Quand nous les prenons, quand nous formons les gens, on sait repérer où on vole l'argent. Ça, c'est la première chose. Maintenant, il y a les personnes qui gèrent ces ordinateurs. Il y a les personnes qui font ces contrôles. C'est là où je parle maintenant de la moralisation. Maintenant, ces gens doivent correspondre à un certain profil. Donc ça veut dire qu'il nous faut une gestion scientifique des ressources humaines. Nous n'allons pas mettre devant cet ordinateur quelqu'un simplement parce que c'est votre cousin. Il faut mettre la personne qui correspond au profil qui a été étudié et qui a été publié par les ressources humaines. Ensuite, il faut qu'il y ait un processus de sélection et de recrutement et d'engagement de la personne la mieux adaptée pour être devant cet ordinateur et vous dire « là, il y a des signaux qu'on vole de l'argent et ça vient de tel département ». Donc, ce n'est pas compliqué. Mais il est clair qu'il faut d'abord qu'à la tête, il y ait cette volonté. Ensuite, il faut qu'il y ait une structure qui a les pleins pouvoirs pour agir. Je ne sais pas si vous connaissez l'épisode des États-Unis où vers les années 20-30, il y a une corruption terrible. Terrible, tellement gangréneuse qu'on ne sait pas par où commencer. Eh bien, ils ont créé ce qu'on a appelé les untouchables, les non-corrompus. C'était une équipe des gens qui étaient comme, je dirais, des Al-Qaïda contre la corruption. Ils avaient cette réputation, on les connaissait. Dans notre pays, ces gens existent. Ces gens qui sont tellement allergiques à la corruption qu'ils ont même sacrifié leur carrière parce qu'ils n'acceptent pas. Il faut les identifier, ces gens, parce qu'ils sont là, dans nos ministères. Moi, ici, je suis sur le terrain. Je travaille ici, je vis ici. Ils sont là. Nous devons les identifier. Ensuite, nous devons leur donner les postes. Ensuite, nous devons leur donner le pouvoir. Quand vous allez réunir ces gens, même 12 personnes, et vous leur donnez le plein pouvoir, évidemment, vous vous arrangez pour que le package, c'est-à-dire le salaire qu'ils reçoivent, les avantages qu'ils reçoivent, puissent les mettre à l'abri d'être tenté. Mais vous allez voir ce qui va se passer.
Et la place de la justice dans tout ça?
Eh bien justement, une fois que ces gens repèrent que vous là-bas, PDG de telle société, eh bien vous bouffez l'argent de l'État. Eh bien on donne votre dossier à la justice. Vous savez que le chef de l'État a mis en place M. Luzolo Mbambi, qui doit faire ce travail. Mais apparemment, M. Luzolo Mbambi a fait les études nécessaires et peut vous dire aujourd'hui qu'il y a 14 milliards que l'on vole. Mais qu'est-ce qui ne fonctionne pas? C'est que quand ces dossiers sont remis à la justice, apparemment ça n'avance pas. Donc, cela veut dire que dans notre système judiciaire, dans nos cours de tribunaux qui sont spécialisés dans le domaine des affaires commerciaux, il nous faut des juges qui ont cette intégrité. Une fois encore, on revient au niveau de la moralisation de notre vie politique. Mais ils sont là, ces gens. Ils ne sont pas difficiles à trouver. Parce qu'ils ont sacrifié leur carrière. Certains ont même perdu leur boulot. Ils sont au chômage à la maison. Pourquoi? Parce que monsieur avait l'habitude de juger les choses de manière trop carrée. Monsieur ne voulait pas accepter les petits 100 dollars, 1000 dollars que l'on donne à côté pour changer le jugement. Ils sont là. On les connaît. Il faut les remettre en place. Donc, on commence par la moralisation, on passe par la mise en place d'une équipe d'incorruptibles, on passe par un système de sélection et de recrutement des gens qui correspondent au poste. Ensuite, on met les outils technologiques qui existent pleinement et qui ne coûtent pas cher pour nous dire, là, dans tel département, dans tel ordinateur, on a volé de l'argent. Donc, ce n'est pas compliqué. La preuve. Désolé de le dire, mais regardez les pays qui nous environnent. Je ne vais pas les citer ici pour ne pas offenser certaines personnes. Aujourd'hui, ils sont devenus champions de la corruption dans le monde entier. Ils ont acquis cette réputation. La preuve, c'est que les grandes multinationales vont chez eux pour investir. Donc, ce n'est pas compliqué, ce n'est pas la mer à boire, ce ne sont pas des rêves, ça dépend simplement d'une moralisation d'un voilà. chef qui est déterminé à pouvoir faire ces choses.
Et quand vous parlez de la moralisation, faudrait-il aujourd'hui voir au niveau du mouvement bleu votre capacité de je ne peux pas parler en termes d'infiltration de la base aujourd'hui dans notre configuration sociale. On sait que les élections elles sont encore ethnico-tribales aujourd'hui, on le sait. On sait comment on tient les discours, on sait comment les gens élisent parce qu'ils ont touché un t-shirt, on leur a donné une tasse du riz. Ça s'est fait comme ça dans les campagnes électorales. Est-ce qu'aujourd'hui votre mouvement a la capacité de pouvoir apporter ces discours de la moralisation dans la grande masse de la population congolaise?
Je ne sais pas ce que les autres hommes politiques, je n'aime pas beaucoup ce terme, en font. Oui, je les vois, j'entends ce que vous dites parce qu'en effet, ça correspond à la réalité du terrain. Mais moi, je n'ai pas ces millions à distribuer. Je n'ai pas ces millions pour acheter ces t-shirts aux gens. Je n'ai pas ces millions pour distribuer les 1000 francs, les 2000 francs aux gens pour qu'ils viennent à mes meetings. Et pourtant, les gens viennent à mes meetings par milliers. Les images sont là. C'est passé sur plusieurs chaînes. Je ne donne pas de l'argent. Et vous ne verrez pas ces gens avec des t-shirts avec mon nom dessus. J'ai fait par exemple construire une route qui, disons, n'existait plus entre la Djouma et Kidzouem dans le Bandundu, dans la province du Kwilu. De 37,5 km en 3 mois, vous savez avec combien? Avec $1,000. Comment vous expliquez la chose? Alors qu'à Kinshasa, on sait que pour faire un kilomètre, il vous faut $1,000,000. Mais moi, j'ai fait construire 37,5 km avec $1,000. Comment est-ce que j'y suis arrivé? Je suis arrivé dans le village. J'ai d'abord eu très
rapidement. Il y a beaucoup d'auditeurs qui voudraient bien intervenir.
J'ai eu très difficile pour arriver à destination. J'ai été vraiment blessé, choqué dans mon cœur de voir ce qui se passait. J'ai réuni les villageois. Je leur ai dit, écoutez, ça c'est tout ce que j'ai. $1,000. Cette route, c'est pour vous, c'est pour vos produits, c'est pour vos enfants qui vont à l'école. Vous allez me l'arranger. Parce que moi je ne vis pas ici, vous vivez ici. Si vous voulez que vos produits puissent être vendus, si vous voulez que vos enfants aillent à l'école, voilà $1,000. Vous vous organisez, vous faites comme les Belges faisaient à l'époque. Chaque village prend la responsabilité, nomme un cantonnier, une équipe. Chaque village s'occupe avec ses houes. Et chaque village a fait son travail. 12 mètres de largeur. En 3 mois, le boulot a été fait. Donc, c'est possible.
On peut y arriver. Simon, vous êtes à Matadi. Merci de nous avoir rejoints. Bonjour.
Oui, bonjour, c'est Simon Tsilolo.
On vous écoute.
Vice-président du conseil d'administration de la nouvelle société civile congolaise. En fait, j'ai bien suivi, j'ai suivi même sur sa page Facebook. Aujourd'hui, où le nombre d'analphabètes dans notre pays ne fait qu'accroître d'année en année. Les projets tels que les gens sont en train de l'expliquer, est-ce que pensez-vous que avec ce nombre d'analphabètes aujourd'hui, la population pouvait-elle saisir facilement les projets des sociétés de chacun des candidats? Nous pensons que ces projets doivent également être peut-être expliqués en langue locale du milieu pour être compris. Et je pense à mon humble avis également que le Congo n'a pas vraiment un problème politique. Le problème du Congo, c'est le problème d'hommes. Souvenez-vous des années 90, lorsqu'on avait élu, je crois, Étienne Tshisekedi du Premier ministre. Un seul mot qu'il a lancé. Nous étions à Tine. Il a demandé tout celui qui possède un bien de l'État, qu'il a mal acquis, qu'il le remette. Le palais du peuple était presque plein. Je me rappelle encore le ministre qui était nommé de l'éducation, c'était Mekwane Congo, quelque chose de pareil, avait plus de 450 000 machines à écrire déjà au niveau des stades de Martyrs. Donc c'est un problème d'homme. À ceci, je pense que l'enseignant a un rôle important d'orientation à faire par rapport à la population, d'autant plus que l'enseignant est l'unique personne intellectuelle qu'on trouve dans tous les coins et recoins de la nation. Et je pense que par l'enseignant, les choses pouvaient encore être autrement comprises pour que la législature qui pointe à l'horizon, qu'on ne puisse plus voter les gens qui doivent venir faire souffrir l'enseignant, et cette souffrance de l'enseignant crée l'analphabétisme, parce que maintenant ce sont les parents qui prennent déjà en compte. Moi je pense qu'il faut d'abord traiter l'homme congolais. Et l'homme congolais, s'il est traité, et il va respecter les biens communautaires, les biens d'ensemble, un bien qui appartient à nous tous, n'est pas un bien d'un individu.
Merci Simon. Et Simon, quand vous parlez du traitement de l'homme congolais, vous insistez beaucoup par passer par l'enseignant. Faudrait-il aujourd'hui avoir une vision claire, savoir quel type d'éducation nous donnons dans nos écoles? Notre système éducatif est-il aujourd'hui capable d'apporter, d'amener à nos enfants la réflexion, l'ouverture d'esprit pour savoir quel type de personnes ils doivent être? C'est ça aussi le travail qui doit être fait au niveau du système éducatif. Merci beaucoup. Marie-Paul, vous êtes à Kisangani. Bonjour.
Bonjour monsieur le journaliste, bonjour à l'invité ainsi qu'à tous les auditeurs de la radio Okapi.
On vous écoute, Marie-Paul.
Oui monsieur le journaliste, il est plausible que la RDC, au regard du scandale géologique, associé de la gouvernance efficace et responsable de ses potentialités, soit un pays qui s'impose sur tous les plans, notamment avec un budget paraminé, comme le pensent bien les économistes et aussi les potentiels candidats. Mais, monsieur le journaliste, toutefois, on doit savoir quelque chose, c'est que les promesses électorales ne rattrapent jamais la réalité une fois au pouvoir. Parce que nous avons vu des gens qui ont passé avec des bonnes idées, des idées qui ont flatté tout le monde, mais une fois au pouvoir, les choses n'ont pas marché. Voilà pourquoi je mets trop de doutes par rapport au plan que monsieur le professeur candidat potentiel vient de donner comme un projet allant dans le sens de réaménager, bien entendu, le budget. Alors, quelle est la solution critique à mon avis? À mon avis, je crois que ce qu'il faut pour les candidats qui seront élus ou les candidats qui seront présidents, c'est de faire passer le pays, de la mono-économie à l'économie diversifiée. Et si on passe déjà à l'économie diversifiée et que nos potentialités sont retraitées, sont travaillées au niveau ici pour que nos potentiels deviennent réellement des richesses réelles, je crois que nous pouvons bien entendu avoir un budget responsable, un budget qui va être à la hauteur des potentiels que nous
merci voilà, beaucoup, Marie-Paul. Merci Marie-Paul, on va terminer avec vous Maître Sonville pour permettre à notre invité de conclure, mais il y a un élément que j'ai retenu, c'est la question de la gouvernance, vous l'avez dit, entre ce que le politicien promet et ce qui s'est fait, il y a toute une éternité, notre invité pourra nous dire si et comment pourra-t-il arriver aujourd'hui à concrétiser ce qu'il dit si jamais il est au part, parce qu'il y a trop de pesanteurs, on le sait. Félicien parlait tout à l'heure des multinationales, de la configuration internationale. Est-ce que cela peut faciliter à un candidat de pouvoir réaliser son projet de société? Maître Sonville, on va terminer avec vous. Vous êtes à Lubumbashi. Merci de nous avoir rejoints. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour Monsieur Pierrot. Bonjour à tous les millions d'auditeurs de la radio Okapi. Bonjour à Monsieur Jean-Paul Mourta, qui est présumé candidat à la présidence.
Merci.
Nous le souhaitons bon vent. Et d'ailleurs, moi, je ne voudrais pas qu'il se présente en trouble fête, au détriment de la volonté de la population, au détriment des attentes de la population. Mais mon problème ne réside pas surtout à ce qu'on soit le chef de l'État. Pour que les choses aillent de l'avant, il faudrait qu'on ait un Parlement fort. C'est-à-dire qu'il faut sensibiliser la population, de porter un choix judicieux sur ceux-là qui auront à contrôler le gouvernement, sur ceux-là qui auront à interpeller les responsables des entreprises publiques, sur ceux-là qui ne céderont pas à la corruption. Puisque pour le moment, nous avons un Parlement trop corruptible et c'est le Parlement qui a mis en déroute toute l'évolution de ce pays. Et avoir aussi des assemblées provinciales fortes, c'est-à-dire que avoir des hommes qui méritent, avoir la méritocratie pour être désignés. Et au-delà de ça, rétablir l'état de droit. Et rétablir aussi, c'est-à-dire que nous vivons pour le moment dans un non-état. Il faudrait rétablir l'état. Puisque lorsque l'état est inexistant, nous pouvons parler, nous ferons absolument
rien. Il n'y a rien qui va marcher. Merci beaucoup, Maître Sonville. Merci. Merci, Maître Sonville. Vous estimez que le président ne travaille pas seul. Il doit être accompagné par des assemblées provinciales, l'Assemblée nationale, les Sénats qui doivent être forts avec des hommes à une moralité élevée pour l'accompagner. Monsieur Jean-Paul Moka, on sait, comme Maître Sonville le dit, le président ne travaille pas seul. Il peut avoir sa vision, mais faudrait-il avoir toutes ces personnes qui l'accompagnent, qui ont ce niveau de moralité. Entre ce que on promet et ce qu'on réalise, il y a toute une éternité. Alors, quelles sont les garanties aujourd'hui qu'on peut arriver vraiment à concrétiser cette vision que vous avez une fois au pouvoir, comme Maître Sonville vous a souhaité bon vent?
Vous savez comme moi qu'aujourd'hui, les Congolais ont compris qu'ils ne veulent plus les noms connus, les personnes connues, ceux qui ont toujours été là. Parce que vous réalisez bien que depuis 1960, à moins d'être débile mental, tout le monde a pigé, comme on dit en français. Les Congolais veulent des hommes nouveaux, des noms nouveaux. À la limite, vous serez élu demain simplement parce qu'on ne vous connaît pas. C'est ça que les Congolais cherchent maintenant. Alors, raison pour laquelle, plutôt, j'avais dit, nous travaillons avec la société civile, ceux qui aident les paysans à faire des champs, ceux qui aident les mamans à avoir des microcrédits, ces gens, ceux qui font comme la route que je vous ai parlé tout à l'heure. C'est avec cela que nous parlons. Et je ne pense pas une seule seconde qu'avec le plan Moka, qu'il y aura un seul candidat qui pourra faire face à ce plan Moka. Donc, au lieu d'être plutôt le trouble fait, je pense que ce plan Moka sera plutôt un facteur de rassemblement. Nous avons besoin d'être ensemble. Nous avons besoin de travailler ensemble. Nous avons besoin de nous pardonner les uns les autres. Parce que, vous savez, si dans ce pays on devait commencer à condamner les gens, il n'y aurait plus personne à la tête de l'État. Donc ça aussi, c'est un état d'esprit qu'il faut avoir. Nous avons besoin d'être ouverts. Parce que le Congo est tellement riche. Le Congo est tellement ce jardin d'Éden qu'il y a assez pour tous les Congolais, mais également pour les gens qui sont à l'extérieur.
Et quand vous avez parlé de l'extérieur, rapidement, parce que c'est ça, oui, une question, comment vous positionnez par rapport à, je ne peux pas dire en termes géopolitiques internationaux, parce qu'on sait aujourd'hui, vous pouvez accéder au pouvoir, mais il y a cette considération de la politique internationale. En bref, il y a beaucoup de choses à dire, mais en bref.
C'est une très belle question. En fait, je me suis posé cette question lorsque j'ai commencé à travailler sur le plan Moka. Et le plan Moka n'est pas seulement le travail de Jean-Paul Moka. Le plan Moka n'est pas seulement le travail des Congolais. Ça a impliqué des Belges, ça a impliqué des Américains, ça a impliqué des Russes, ça a impliqué des Israéliens, ça a impliqué des Allemands, ça a impliqué des Britanniques, ça a impliqué des Israéliens et ça a impliqué des citoyens des Arabes Unis, les pays Arabes Unis. Parce que j'étais conscient que pour que ce plan réussisse, j'ai besoin non seulement des Congolais, mais j'ai également besoin que les Chinois, les Américains et les Européens puissent être autour de la table. En 17 ans, c'est le travail que nous avons fait.
Et en un mot, pourquoi un mouvement bleu?
Le bleu, c'est la patrie, la couleur de notre drapeau. Le bleu, c'est la couleur de l'eau, c'est-à-dire la terre, l'Ikamba Mabele. Le bleu, c'est la couleur du ciel, c'est l'espoir. Et enfin, le bleu, c'est la vie, puisque notre corps est constitué de 70% d'eau.
Merci beaucoup, Jean-Paul Moka. On ne pourra pas tout aborder, peut-être que prochainement, mais les grandes lignes, les gens ont suivi votre vision, le plan Moka, de 1 000 milliards de dollars en 25 ans. Cela est possible, il faut lutter contre la corruption, il faut instaurer l'état des droits. Merci aux auditeurs, vous avez été nombreux à commenter ces sujets. Les débats, c'est poursuivi sur la page Facebook des paroles aux auditeurs.
Allô? 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 Mais, ils ne répondent pas?
Merci beaucoup Alain Go qui est à la mise en onde de ce magazine en remplacement tout à l'heure de Jean-Claude Siala. Merci à Nico Kalamba qui était à la réalisation. Et puis Roy Lamège vous a présenté ce magazine coordonné par J.R. Lungembo. Martin Seboujango était à la supervision. On se retrouve demain à la même heure pour un autre numéro des paroles aux auditeurs. Mais cette émission c'est sur www.radiocapi.net. Merci. Au revoir.